Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, Positron épisode 46, c'est le deuxième épisode de la session Season One-esque avec Alexandre et Sophie.
Salut Patrick.
Salut à vous deux, moi je suis Patrick Béjart, je suis votre animateur et on va avoir encore une fois aujourd'hui trois trucs cool à vous recommander. On va avoir une série télé, un jeu vidéo et un musical, c'est comme ça qu'on dit maintenant.
C'est ça.
Un musical. Bah ouais. Donc, on va voir si ces choses-là vont vous plaire. En tout cas, moi, je suis heureux de retrouver mes deux co-animateurs de Season 1, les deux co-animateurs de Season 1 dans Positron. Ça va, vous êtes en forme? Le premier épisode, la répétition, enfin, le tour de chauffe s'est bien passé?
Impeccable.
Impeccable, pas de souci.
Ouais. On s'est bien tenu, Sophie a été impeccable comme d'hab, enfin, tout va bien.
Oui, j'imagine que ça ne va pas durer, donc je m'empresse de lancer le deuxième épisode. Deuxième épisode où... Pardon, je vais boire un petit peu de thé, hop, un petit peu chaud. Et hop, je suis paré. Donc, je commence avec un jeu vidéo. Jeu vidéo que j'ai redécouvert en fait ces dernières semaines, derniers mois. C'est un jeu qui s'appelle Middle Earth Shadow of Mordor. Alors vous l'aurez compris, c'est dans le monde du Seigneur des Anneaux, avec ce magnifique accent que j'ai fait volontairement exagérer. En français, c'est La Terre du Milieu, l'ombre du Mordor. Et c'est un jeu vidéo qui est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, et je me demande du coup s'il est sur l'ancienne génération. Je vais vérifier un instant. Shadow of Mordor. Oui, sur PlayStation 3 et sur Xbox 360 aussi. Donc, il est vraiment partout. Je crois qu'il est un petit peu... Il y a des systèmes un petit peu moins poussés dans les versions d'ancienne génération. Mais quoi qu'il en soit, c'est un jeu donc auquel j'ai commencé à jouer en octobre quand il est sorti. Et puis, j'étais occupé avec tout plein de choses. Et puis, il y a eu Noël et tout ça. Et du coup, je l'ai un petit peu mis de côté. Et je l'ai ressorti il y a environ, je ne sais pas, un mois et demi. Et je l'ai vraiment redécouvert. C'est un jeu qui a... des petits défauts et des grandes qualités, qui n'est pas forcément à conseiller à absolument tout le monde, mais qui par contre peut toucher un public relativement large. À partir du moment où vous appréciez les jeux d'action, je pense que vous pouvez y jeter un coup d'œil. Alors, pour détailler le jeu, il se place dans l'univers du Seigneur des Anneaux, entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux lui-même. Donc on joue un gardien de Gondor qui garde The Black Gate, la porte noire, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, moi j'y joue en anglais, et qui se fait tuer et qui est en fait dans le Mordor avant que les troupes de Sauron n'aient complètement envahi le Mordor. Donc elles sont en train d'envahir Mordor et il est là, il s'est fait tuer. Et sa famille s'est fait tuer aussi, mais lui ne reste pas mort. Et je ne vais pas gâcher l'histoire, parce que l'histoire n'est pas hyper incroyable, mais il y a un petit peu de trucs quand même que j'ai trouvé vraiment assez malin pour lier l'univers du jeu et l'histoire du jeu au reste de l'univers du Seigneur des Anneaux, sans faire intervenir ni... je sais pas, il n'y a pas Gandalf, il n'y a pas Legolas, il n'y a pas Aragorn, voilà, il n'y a pas tous ces trucs. C'est vraiment quelque chose de complètement à part, mais ça reste complètement lié à cet univers, et de manière assez intelligente, j'ai trouvé. Mais bon, donc l'histoire, je l'ai trouvée pas mal, elle n'est pas fantastique, mais à côté de ça, il y a des systèmes de gameplay qui sont vraiment convaincants, je trouve, avec trois éléments principaux. D'une part, un monde ouvert qui est comparable à un petit peu tous les mondes ouverts, de Far Cry à Assassin's Creed, voilà, ce genre de choses, mais à mon sens, qui est encore mieux exécuté que les modèles qu'il a pris. Donc je trouve qu'il est vraiment hyper bien exécuté pour un truc de monde ouvert. À côté de ça, on a un système de combat qui est complètement hérité de la série des Batman Arkham City, Arkham Asylum, etc. Et c'est la même boîte, hein, c'est Warner Bros. Qui gère le jeu, donc c'est pas, qui a édité le jeu, donc c'est pas si étonnant que ça. Mais il est là encore super bien exécuté. Moi, j'aime beaucoup ce système de combat parce que il est facile à prendre en main. Visuellement, c'est très impressionnant parce qu'on fait des trucs incroyables. Et si on fait qu'appuyer sur un bouton, bah, ça va, on réussit à faire des trucs. Mais si on appuie bien, on fait des trucs encore plus impressionnants. Et il y a une autre notion en plus, enfin, de quel bouton choisir, sur quel bouton il faut appuyer. Sinon, au final, on ne réussit pas. Donc, c'est un système qui est à la fois simple et pas simple. C'est une vraie réussite, ce système de combat. J'apprécie vraiment le fait qu'ils l'aient réintroduit dans Shadow of Mordor. Et en plus, ils l'ont réintroduit d'une manière hyper cohérente. C'est-à-dire qu'à la fin, moi, quand j'ai retourné le jeu, hein, j'ai quasiment tout fait. Mais à la fin, tu deviens d'une puissance. Au début, tu as genre 6 ou 7 orques qui t'arrivent dessus. Tu t'enfuis parce que bah, tu peux pas les battre. Mais à la fin, tu les prends par dizaines, quoi. Tu les prends par dizaines et c'est d'une satisfaction. C'est assez violent. Et c'est un thème dans les positrons que je fais en ce moment. Mais c'est assez violent, mais c'est hyper satisfaisant. Tu fais bien tes combos qui sont pas trop durs à faire, tu les fais bien et puis tu as le payoff, la satisfaction à la fin avec des mouvements qui vont nettoyer la moitié du truc. Enfin, c'est super bien fait.
T'as des QTE donc, aussi quand tu fais ça?
C'est un petit peu hérité des QTE, mais en action quand même. Le système de Batman est un petit peu comme ça, c'est-à-dire que c'est presque un système de QTE actif. C'est-à-dire que pour décrire, tu as un bouton avec lequel tu vas attaquer et le personnage que tu joues va lui-même faire les mouvements hyper compliqués et hyper visuels et hyper satisfaisants visuellement pour attaquer les différents ennemis qui sont autour de lui. Et tu vas orienter avec la direction quel ennemi tu veux qu'il attaque. Et lui, il va enchaîner les différents coups de manière très fluide. Ensuite, tu as des ennemis qui vont arriver dans ton dos et qui vont t'attaquer eux à leur tour aussi. Et là, il faut que tu appuies sur un autre bouton pour parer leur coup. Et là, automatiquement, il va se retourner et parer le coup et tu peux ensuite réattaquer. Donc dit comme ça, ça a l'air hyper simpliste et c'est relativement simple. Mais au bout d'un moment, il faut quand même faire attention parce qu'il y a d'autres trucs qui rentrent en ligne de compte aussi. Il faut quand même faire un petit peu attention parce que sinon, tu meurs, quoi, tu réussis pas. Donc, le système d'action, de combat est très bien foutu. Et à côté de ça encore, il y a un système qui, là, est vraiment original dans l'univers des jeux vidéo et dans l'univers de ces jeux-là. C'est ce qu'ils appellent le Nemesis System. Le système Nemesis, c'est un système qui va faire que les ennemis, les capitaines et les chefs de guerre de l'armée de Sauron vont être générés aléatoirement et dynamiquement. C'est-à-dire que, je donne un exemple, s'il y a un groupe d'ennemis qui sont en train de te taper et qu'au final, il y en a un qui réussit à te tuer, bon, tu meurs pas vraiment, tu te retrouves ressuscité quelque part pour des raisons qui sont expliquées dans le jeu et qui fonctionnent, mais il réussit à te tuer et là, l'écran va zoomer sur sa tête et on va lui donner un nom et un surnom, ah oui, genre Gorkrok, le dévoreur, tu vois. Et il va avoir, du coup, une identité. Et c'est cet ennemi-là qui t'a tué. Et s'il te revoit, il te dit, tu vois, quand tu le recroises quelque part dans le monde ouvert de l'ombre du Mordor, il va te dire, pareil, le truc va rezoomer sur lui, ou quand tu commences à l'attaquer, genre, tu sais, il y a les épées qui se plaquent l'une contre l'autre, et là ça s'arrête et il dit « Ah, c'est encore toi, petit humain misérable, je t'ai bien massacré la dernière fois, t'inquiète pas, ça va recommencer. »
Mais est-ce que du coup il est plus fort parce qu'il t'a tué?
Et bien justement, à chaque fois qu'il te tue, il va gagner en puissance.
Oh, c'est bon ça.
Et bon, il y a une limite bien sûr, oui. Mais et du coup, l'autre aspect aléatoire, c'est qu'ils ont tous des forces et des faiblesses. Et tu peux aller interroger certains ennemis, tu vas leur sonder l'âme, tu vas les vider de leur substance de vie, et tu vas les interroger pour avoir des informations sur ces capitaines et ces chefs de guerre. Et il y en a qui, par exemple, ont une peur panique du feu. Donc, tu vas te balader dans leur camp et tu vas essayer de les attirer ou de les amener discrètement jusqu'à un endroit où il y a du feu. Et puis, tu vas faire exploser un truc à côté. Et là, ils vont devenir hyper faciles à battre. Mais par contre, de la même manière, il y en a qui ont très peur des Kraug, qui sont des monstres qui sont par là. Et, pardon, pas qui n'ont pas très peur, mais qui sont enragés par les Kraug. Genre, il envoie un, tout de suite, il regagne tous ses points de vie, il devient beaucoup plus fort. Et là, tu as intérêt à détaler comme un fou. Pareil avec le feu, par exemple. Si tu te plantes, si tu ne sais pas de quoi il a peur, tu peux faire exploser un truc à côté de lui. Et là, il devient beaucoup plus fort parce qu'il est enragé. Donc, il y a tout un système comme ça qui est hyper bien foutu. Et ensuite, là, à chaque fois que tu meurs, l'armée du Mordor elle-même bouge parce qu'il y en a qui se défient en duel, qui deviennent de plus en plus forts, puis il y en a qui deviennent chefs de guerre, qui sont le plus haut des rangs, etc., etc. C'est suffisamment simple pour ne pas être relou, mais c'est suffisamment complexe pour être intéressant. Franchement, moi, ces trois systèmes ensemble, monde ouvert bien conçu, système de combat bien conçu, et système Nemesis original. Alors, évidemment, le monde ouvert, il n'est pas d'une originalité complètement folle. Le système de Nemesis, oui, au bout de 10 heures de jeu ou 20 heures de jeu, bah, il y a des trucs qui se répètent, quoi. C'est un petit peu au bout de la 25e fois que tu as un ennemi qui t'a dit « je vais te bouffer » ou machin, parce qu'ils disent tous des trucs différents. Mais bon, il y a, je sais pas, une centaine de ou 200 trucs différents, mais au bout d'un moment, ça finit par revenir. Oui, tu peux dire, bon, ça devient lourd. Mais il n'empêche, c'est quand même... Je pense que pour finir le jeu, ça doit être une quinzaine d'heures, peut-être, quelque chose comme ça. Et il y a plein de trucs dont je ne parle pas aujourd'hui, hein, dans les systèmes du jeu. Il y a énormément de choses dans l'histoire, dans le... Bref, il y a plein de trucs dont je ne parle pas et qui sont vraiment bien conçus aussi. Donc, moi, je le recommande peut-être pour les fans de ce genre de jeu quand même. Mais vous savez quoi ? C'est un jeu suffisamment grand public. Je vais dire pour tous, quoi. Si vous aimez les jeux vidéo, ça vaut le coup de le tenter, ne serait-ce que pour le système de Nemesis qui, à mon sens, va être repris d'une manière ou d'une autre dans différents jeux parce qu'il est trop, malin, ce système.
Ouais, c'est une excellente idée, ça, effectivement. Mmh. Mais tu joues toujours tout seul ?
Oui, tu joues tout seul. Malheureusement, il n'y a pas d'éléments en ligne. Mais je dirais qu'il y a des trucs, genre certains modes où tu peux essayer ensuite d'aller tuer autant de chefs de guerre que possible et tu compares ton score à ceux de tes amis. Mais ce n'est pas un truc, tu vois, c'est chacun qui fait le truc de son côté et puis on compare le score. Mais à la limite, je préfère qu'il n'ait pas mis artificiellement un mode en ligne ou un mode à plusieurs... alors que ça n'avait pas de sens et qu'il soit concentré sur faire une expérience solo cohérente plutôt que d'avoir fait le truc pour le principe, quoi. Peut-être que pour un 2, j'espère vraiment qu'il va y avoir un 2 parce que j'ai adoré ce jeu, je l'ai dévoré, quoi. Donc voilà, Shadow of Mordor, l'ombre du Mordor, il est disponible partout et en plus... Il est bon, il faut une manette hein, si vous l'achetez sur PC, mais je pense que maintenant il doit plus coûter bien cher. Donc si pour 60€ il y avait certains qui pouvaient dire bon c'est peut-être un peu cher, moi je pense que pour 30-40€ il faut se jeter dessus, c'est un très bon jeu, quoi. Voilà, c'était mon positron. On passe à Sophie.
Je note le jeu vidéo et très j'enchaîne avec, je relance avec une série cette fois-ci. C'est mon tour de parler de série. Je ne vais pas encore parler, j'ai le droit. Alors, je vais vous parler d'une jolie série aussi. On n'est pas dans la baston, on est dans un truc... c'est aussi un univers cette fois-ci, mais c'est un univers de l'histoire amoureuse. C'est la série qui s'appelle The Affair.
Oh oui.
Tout de suite. Hein.
Non, mais j'aurais pu la mettre moi aussi, parce que c'est
mais
aussi
tout à
un
fait.
Coup de cœur de cette saison.
C'est ça, le coup de cœur de la saison.
J'en ai entendu parler, ça m'avait l'air un peu... Bon, vas-y, raconte.
Ah non, quoi.
C'est pas cucu la praline, monsieur.
D'accord.
Du tout, monsieur.
Ok.
donc, c'est une série de Showtime qui a été diffusée en 2014. Et donc, c'est tout récent. Ça a même été diffusé chez nous sur Canal Plus Série. Donc, ça compte 10 épisodes. Et c'est une série un petit peu différente parce qu'elle joue beaucoup sur le point de vue. Donc l'histoire, c'est on suit Noah, donc c'est un père de famille qui a marié 4 enfants, qui part pour l'été dans les Hamptons, les résidences très très bourgeoises des Hamptons pour se reposer pendant l'été. Et au détour d'un dîner dans un diner justement, il rencontre une serveuse, Allison, Et il va la revoir plusieurs fois. Et donc là va arriver The Affair, c'est-à-dire l'histoire extra-conjugale, quoi, comme on dit. Ouais. Donc, jusque-là, on va dire, c'est assez banal. Sauf qu'en fait, le principe de la série, c'est que sur un épisode qui dure une heure, les épisodes, on va dire la plupart des épisodes, sont divisés en deux parties. Donc, c'est-à-dire à peu près deux fois 30 minutes. Dans la première partie, on va voir le point de vue de Noah. Et dans la deuxième partie, on va voir le point de vue de Allison, donc la femme qu'il rencontre.
Sur la même journée,
sur les mêmes événements. Et donc, ça va nous servir à comprendre comment est née cette liaison entre eux et pourquoi il en est venu à tromper sa femme et elle en est venue à se mettre avec lui. Mais pas que. C'est-à-dire qu'on se rend compte très très vite que l'histoire de point de vue, c'est très important parce qu'en fait, on a un point de vue masculin et un point de vue féminin. Vous allez me dire, et alors, c'est que justement. Noah, quand il va nous parler de Allison, il va nous la montrer très sexy, très séductrice, assez désespérée et donc qui aurait besoin d'être consolée et secourue. Et quand Allison va nous montrer Noah, elle va le montrer très séducteur, très sûr de lui, ce que lui ne nous montre pas en fait. Donc c'est comment les deux personnages se voient et comment ils expliquent tous les deux leur liaison. Mais la série, c'est pas en fait que ça, parce que justement, le fait que ça soit rencontré par deux personnes, c'est parce que il y a aussi une autre affaire, qui est cette fois-ci une affaire policière, et l'histoire est racontée depuis une salle d'interrogatoire. Donc en fait, il y a... Dans le futur, voilà. Il y a une affaire policière dans laquelle les deux personnages sont impliqués, et les policiers leur demandent de raconter ce qu'il s'est passé, donc comment ils se sont rencontrés, qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite, etc. Et en fait, quand on commence la série, on ne sait absolument pas de quelle affaire il s'agit. Ça, c'est forcément grave, mais ça peut être un accident, ça peut être un meurtre, ça peut être une disparition, on ne sait pas. Et en fait, l'intérêt, ce n'est pas vraiment de savoir ce qui va se passer, bien que ça va arriver, on va le savoir petit à petit, mais l'intérêt, c'est de comprendre comment ces personnages en fait, se sont rencontrés et comment la relation est née entre les deux et du coup, comment cela va affecter leur entourage. Donc, c'est vraiment une série magique dans le sens où l'atmosphère est assez spéciale. Hein, le lieu choisi, les Hamptons, c'est la mer, mais ce n'est pas la mer de Alerta Malibu, hein, ça n'a rien à voir. C'est très
particulier. C'est la banlieue chic de New York, en fait. Hein,
ouais, voilà. C'est une ambiance très particulière. Ça se passe sur une île. Donc, c'est une ambiance petit village, tout le monde se connaît. Il y a des scènes qui se passent à New York où c'est très, très impersonnel. Ce coup des deux points de vue, c'est forcément savoureux parce qu'on voit bien ce qu'on peut omettre de raconter. Quand on raconte une histoire, on omet toujours des détails ou on change quelques petits détails pour se valoriser, pour pas avouer ses faiblesses. Et là, du coup, on est au courant, nous, en tout cas, en tant que spectateurs, en voyant ces deux histoires, ces deux points de vue, on est au courant d'absolument tout et on connaît très, très bien les personnages. Du coup, c'est des personnages très fouillés, très travaillés. Le casting est absolument éblouissant. Donc, dans le rôle principal, Dominique West, qui est grande figure des séries
c'est
télé.
The Wire
aussi, et The Hour plus récemment. Ruth Wilson, c'est donc qui joue Allison, elle était dans Luther, qui a joué. Donc, elle avait un rôle extrêmement intéressant dans la série Luther. Elle revient ici dans un rôle, je pense, le rôle de sa vie, honnêtement, tellement elle est géniale.
Okay.
Joshua Jackson, donc de Dawson, ou plus récemment de Fringe, et Maura Tierney de Urgence. Donc on a un casting 5 étoiles.
D'accord. Mais en fait, ça a l'air hyper intéressant tout ce que tu racontes, et ça m'intrigue vraiment. Mais il y a un truc qui m'inquiète, c'est l'idée, est-ce qu'ils vont pouvoir la faire tenir sur toute une saison, ou bon, peut-être même plus, mais est-ce que ça tient, quoi? Parce que c'est le genre de truc qui a l'air d'être vraiment difficile à faire tenir.
Ah oui, ça tient.
Ah oui, ça tient largement. Il n'y a que 10 épisodes déjà, donc c'est...
Parce que la vraie inconnue qu'on a concernant The Affair, c'est qu'en fait, on ne va pas raconter évidemment la fin de la saison, mais ça se termine sur quelque chose, un événement qui vient un peu conclure tout ça. La vraie question, la vraie interrogation qu'on a, c'est la saison 2, va-t-elle nous emmener sur la suite de cet événement ou va-t-elle nous faire revivre les mêmes événements, mais avec d'autres points de vue, d'autres personnages. C'est une série qui est faite par un monsieur adapté d'un format israélien dans lequel il n'y avait pas toute la trame policière. Et c'est vrai que Sophie l'a dit, ça fonctionne même sans la trame policière. Oui. Parce que l'histoire est puissante et les personnages la servent. Enfin voilà, on est embarqué par ces personnages et c'est vrai que franchement, Russ Wilson et Dominic West, tous les deux, c'est un couple qui match tout de suite. Et Agai Levy, donc, le créateur original israélien, a dit que lui, il avait une idée pour 3 saisons pour cette série, donc 30 D'accord. épisodes potentiellement.
Ok, bah écoute, ça a l'air intéressant, en tout cas ça m'a intrigué. En plus, moi j'aime bien les trucs de principe où tu ne peux pas savoir quelle est la vérité et tu penses savoir, mais quand tu le regardes d'une autre manière, en fait, ça te donne une autre image. Donc, je vais me tenter.
Et je te conseillerais même de le regarder avec ta femme, je dirais, parce que justement, votre différence de point de vue peut être intéressante sur la série.
Mmh, oui, tout à fait, ouais. Bah, généralement, on regarde les séries ensemble, à part peut-être Banshee.
Peut-être Banshee, non.
Qui ne l'intéresse pas particulièrement, ouais.
Et Sophie n'a pas mentionné, mais je sais qu'elle adore la musique du générique.
Ah oui.
Aussi.
Fiona Apple, effectivement, c'est...
Ah, Fiona Apple, immense qualité, immense dame, effectivement. Mais dis-moi, il n'a que des qualités, cette
tu
série.
Vois
je crois que Chris Wilson a eu un Golden Globe pour son rôle dans cette série. Donc, vraiment, c'est une série qui est unanimement saluée. La critique en France a été dithyrambique. Et c'est vrai que nous, ça a été notre coup de cœur, certainement, de cette rentrée 2014.
Très bien. Eh bien, écoutez, The Affair, c'est dans la poche, ça marche. Bah c'est à ton tour, Alexandre.
Je vous promets, ma chère Sophie, que je ne chanterai pas, même si je parle de musical. C'est la hantise de Sophie à chaque fois que le mot musique arrive dans ma bouche. Elle se crispe et elle a tort parce que j'ai un organe absolument formidable. Et en fait, musical, bien entendu, Sophie. Et en fait, donc,
on avait compris, hein. T'inquiète pas.
Et donc, grosso modo, la différence avec musical est importante parce que la différence fondamentale avec ce qu'on appelle chez nous les spectacles musicaux ou comédie musicale, qui est un terme un peu galvaudé parce qu'on ne l'emploie pas du tout comme ça. C'est un musical dans le sens où ça s'apparente à ces grands shows à l'américaine qui pullulent sur Broadway. Et depuis quelques temps, c'est vrai que la France importe ces concepts-là pour en faire... ça fait quelques années. Non, ça fait quelques années qu'elle fait des comédies musicales, mais ça ne fait pas forcément quelques années qu'elle importe les musicals américains pour en faire des versions françaises. Je crois que ça a commencé avec le Roi Lion, donc ça fait effectivement quelques années, mais pas tant que ça, et c'est vrai que ça a mis un petit peu de temps à s'installer. Il y a eu le Roi Lion, il y a eu Mamma Mia, et puis il y en a plein d'autres qui sont en préparation. Je sais qu'il y a Cats, qui est un monument des comédies musicales américaines qui arrive à la rentrée à Mogador, puisqu'il s'agit du théâtre Mogador, qui est un magnifique lieu pour celles et ceux à Paris qui ont eu l'occasion déjà de s'y rendre. C'est vraiment le lieu qui se prête le plus à voir ce genre de spectacle. Et donc là, le spectacle dont je voulais vous parler, c'est un spectacle que j'ai découvert au mois de décembre dernier, juste avant Noël, qui s'appelle Le Bal des Vampires, qui est évidemment adapté du film des années 60 de Roman Polanski, dans lequel il jouait, qu'il avait réalisé. Il y avait sa femme Sharon Tate encore vivante qui avait le rôle principal dans ce film. Et donc c'est lui-même qui a un peu adapté le musical, et puis surtout lui qui met en scène et qui l'a mis en scène à Paris. On va suivre finalement l'histoire d'un jeune homme qui est un étudiant qui s'appelle Alfred et qui part avec son mentor, le professeur Arbronzus, en Transylvanie sur les traces d'un vampire qui terrorise la région, qui s'appelle le comte von Krolok. Et donc voilà, on retrouve un peu tout ce qui fait le sel des films un peu de la Hammer, ces grandes traditions de films de Christopher Lee et des Dracula mythiques, mais évidemment avec le côté très parodique qu'on peut retrouver dans le film Le Bal des Vampires pour celles et ceux qui l'ont vu. Alors même si c'est vrai que je reconnais que le musical a un peu plus de mal à retranscrire ce côté un peu parodique. Par contre, au point de vue des décors, Il y a des décors qui sont absolument colossaux, qui sont sur scène. L'auberge dans laquelle la grande partie de l'histoire prend place, le décor est impeccablement reconstitué. Le grand château du vampire principal, Van Krolok, est aussi divinement représenté. Et puis surtout, tous les numéros fonctionnent. Et c'est pour ça que je disais qu'il y a une différence avec les comédies musicales ou les spectacles musicaux français qui sont finalement des concerts avec des gens qui savent quand on a de la chance chanter, mais qui en tout cas ne savent pas jouer la comédie, là, les gens qui sont dans ce spectacle-là, comme dans Le Roi Lion, comme dans Mamma Mia et comme dans tant d'autres, ils savent chanter et ils savent jouer. Et ça, c'est hyper important parce qu'effectivement, on ne fait pas que chanter dans ces spectacles. Il y a une vraie alternance avec des morceaux de, et des moments de comédie. Et puis, ça sonne pas creux, comme ça peut souvent être le cas dans d'autres spectacles musicaux qu'on a vus en France. Et la bande-son, alors il faut évidemment aimer ce genre musical qui est très particulier, mais la bande-son est extrêmement efficace. J'ai pas eu l'impression d'avoir un seul moment faible dans la bande-son quand j'ai vu le spectacle. Il y a évidemment deux moments extrêmement importants. Il y a évidemment le titre principal du spectacle qui s'appelle « Je t'attends » et qui est surtout en fait, un titre que tout le monde connaît puisqu'il avait été repris. C'est le titre original, c'était Bonnie Tyler, « Total Eclipse of the Heart ». Qui est un titre qui existe depuis des années et qui a été adapté.
A total eclipse of the heart.
Et ben voilà, c'est au final celui qui l'a fait.
Voilà, je l'ai eu, ça y est.
Et en fait, c'est assez malin parce qu'en fait.
Pardon, je vais recouper mon micro, je suis en train de mourir.
Et en fait, il y a le titre Je t'attends qui est dispatché tout au long du spectacle et qui sonne un peu comme vous savez, l'appel du vampire à sa proie pour la faire venir à son château. Et puis il y a une autre scène où les morts du château se lèvent. C'est une séquence assez bien chorégraphiée dans le cimetière du château du comte von Krolok. Et c'est comme ça des scènes donc très graphiques. Donc il faut aimer évidemment ce genre de spectacles musicaux. Mais c'est bien joué, c'est bien mis en scène. Évidemment, Polanski n'est pas non plus un manchot. Et puis, la musique est très bien faite. Je voudrais juste citer le rôle du comte Von Krolok, qui est joué par Stéphane Métro, qui est un monsieur qui travaille beaucoup sur beaucoup de productions de spectacles de comédie musicale, notamment héritière de ces spectacles américains. Et puis, Raphaël Cohen, qui est donc la jeune femme qui joue Sarah et qui aussi a une superbe voix et qui, les deux se marient très bien. C'est un très, très beau spectacle, alors qu'il y a un peu de mal à rencontrer le succès à Paris. Je pense que le...
Il joue jusqu'à quand ?
Normalement, il joue jusqu'au mois de juillet. C'est à peu près le timing des spectacles musicaux de Mogador. Et il sera remplacé à partir du mois d'octobre par Katz, avec le célèbre Midnight de Barbara Streisand. Là aussi, un titre mythique. Mais voilà, moi, je le conseille vraiment parce que c'est un très, très beau spectacle. Et en plus, la salle du Théâtre Mogador, c'est juste l'une des plus belles salles de Paris pour aller voir ce genre de spectacle. C'est proche des théâtres de Broadway pour celles et ceux qui ont eu l'occasion peut-être d'y aller un jour. Donc voilà, c'est un beau spectacle dans un très beau lieu.
Écoute-moi.
Excuse-moi. En tant que non-parisienne, combien ça coûte ?
Alors, c'est le problème des spectacles de toutes ces comédies musicales, c'est qu'à partir du moment où vous avez une énorme troupe, ça peut coûter cher. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le carré or, c'est-à-dire central par rapport à la scène, c'est 80 euros.
Je m'attendais à pire. Hein.
C'est 80 euros au plus cher.
Le plus cher, c'est 80 euros, d'accord.
Le plus cher, c'est 80 euros et on peut trouver des places je pense, 25 ou 30 euros. Alors évidemment, vous savez où vous êtes placé dans ces cas-là, un peu plus loin. Mais la configuration du théâtre Mogador fait que on n'est jamais mal placé finalement. Et c'est un spectacle magnifique. Enfin, moi, j'avais vu l'année dernière La Belle et la Bête à Mogador, aussi inspiré du célèbre dessin animé Disney. C'était aussi dans cette lignée-là et au même lieu. C'est fait par un groupe qui s'appelle Stage Entertainment qui produit ce genre de spectacle et c'est une totale réussite.
C'est marrant, moi je suis allé, ma femme aime bien l'opéra et donc on se dégote les places les moins chères d'opéra, que ce soit à Garnier ou à Bastille, et on a des places, enfin on trouve des places à 15 euros quoi. Bon, évidemment t'es genre à 2 cm de la scène mais tellement sur le côté que t'en vois que la moitié et tellement haut que tu vois rien du tout, donc il faut te pencher, genre tu manques de tomber, c'est
t'as des courbatures le lendemain quoi.
C'est ça, surtout à Garnier, à Bastille, c'est beaucoup mieux. T'as quand même un peu le vertige, mais bon. Mais je suis surpris que, parce que là, c'est les places vraiment pas chères à 15 euros, mais quand tu veux des places un petit peu plus chères, là, c'est, enfin, je sais pas, 180 euros. Une fois, je lui avais fait un cadeau de Noël. Je lui avais offert une belle place à l'opéra qui coûtait 150 euros. Et le pire, en fait, bon, je vais pas raconter ma vie, mais très rapidement, j'avais offert un bon d'achat, en fait, de 150 euros. À ma femme pour l'opéra parce qu'elle adore ça. Je me suis dit bon bah on soit elle ira deux fois, soit tu vois on se divisera le truc en deux ou je paierai un peu plus et puis on ira à deux machin. Et en fait tu pouvais, il y avait un truc du genre tu pouvais l'utiliser que pour une place à la fois et moi j'ai dû repayer derrière pour y aller. Enfin c'était hyper mal foutu. Donc tout ça pour dire que 80 euros pour la meilleure place du théâtre, ça me paraît pas complètement hors de prix. En enfin, même temps, c'est pas un opéra, ouais. Donc.
C'est pas un opéra, mais c'est vrai que la troupe est assez importante, donc voilà. Faut pouvoir effectivement les sortir, mais je vous dis, on trouve des places beaucoup moins chères.
20 euros.
Ouais, alors je pense que ça doit monter à 25 ou 30 euros au moins cher. Et je vous dis, Mogador, le problème des angles morts, comme tu disais, Patrick, il n'y en a pas à Mogador parce que finalement tout est assez central face à la scène. Alors évidemment, plus vous êtes en haut, plus effectivement, il faut peut-être un peu se pencher. Mais vu la taille des décors, j'ai envie de vous dire, même quand vous êtes en haut, vous voyez quelque chose, quoi.
Ouais, je peux dire qu'effectivement, à l'Opéra Garnier, si t'es au quatrième balcon, tu vois pas grand-chose.
C'est ça.
J'ai testé pour vous. Bon, bah très bien. Donc, ça s'appelle le Bal des Vampires et c'est jusqu'en juillet à Paris, malheureusement, plutôt pour les Parisiens ou si vous êtes de passage. Est-ce qu'ils vont faire une tournée ailleurs ensuite ou tu sais pas ?
Je crois qu'honnêtement, vu le barnum de ces productions musicales, je crois que c'est des productions musicales, je vais pas m'avancer, mais je crois qu'aux États-Unis c'est pareil, il y a rarement des tournées. Donc je pense pas qu'il y aura une tournée en province. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura pas de sortie d'un album, parce que ça c'est un peu la politique, c'est qu'ils ne sortent pas les productions, parce que c'est vrai que ça coûte beaucoup d'argent à produire et que c'est pas forcément toujours rentable. Et par contre, selon l'héritage des Américains, il n'y a pas de sortie DVD de ces spectacles. Voilà. D'accord. Donc si on veut les voir, il faut les voir en concert.
Ouais, c'est ça. Soit tu y vas, soit tu le vois pas.
Exactement.
Ok.
C'est dommage d'ailleurs, parce que les Bals des Vampires ne sortent pas en DVD ou le comment ça s'appelle, le La Belle et la Bête. Par contre, ça, Robin Desbois, on y a droit. Hein. Ça, du M. Pokora, on en bouffe.
Ah ouais, mais il y a M. Pokora, qu'est-ce que tu veux ça, oui, c'est ça. Vendeur.
C'est des mondes qui me sont complètement étrangers, ce dont vous parlez là.
Bah, il vaut mieux que ça te reste étranger, mon cher papy.
Ouais, d'accord. Bon, bah merci à vous deux. Je vais rappeler à nos très chers auditeurs ce dont on a parlé aujourd'hui. Il y avait d'abord le jeu vidéo Shadow of Mordor, l'ombre du Mordor. Ensuite, la série que j'ai upgradé à pour tous, plutôt que pour les fans. La série télé The Affair, qui est également pour tous. Et le musical Le Bal des Vampires sur Paris, pour les fans uniquement, là.
Ah oui, pour les fans du genre.
Ouais. Donc, merci à vous deux, comme je le disais. Est-ce que vous pouvez nous dire où nos auditeurs, désolés de devoir attendre deux longues semaines pour vous retrouver, peuvent aller pour un petit peu étancher leur soif de série, de Sophie et d'Alexandre?
Ouais, Alex, vas-y, c'est ton tour.
C'est mon tour cette semaine. Bah écoutez, vous avez déjà le site season1.fr sur lequel on vous propose évidemment toutes nos émissions de manière hebdomadaire. Il y a aussi le compte Twitter @season1 et puis la page Facebook de Season 1 sur laquelle vous pouvez liker et retrouver donc toutes les infos sur les émissions, mais pas seulement, aussi sur les articles qu'on publie en grand nombre sur le site.
Et ton compte Twitter à toi, tu n'en parles pas?
@AlexandreLetraine, c'est mon compte perso, voilà. Tout simplement.
Super. Merci Alex. Et Sophie, c'est bon, il n'y a rien à rajouter?
Moi, vous pouvez aussi me retrouver dans Geek Inc. Tous les 15 jours, à peu près, sur YouTube et vidéo.
Super, ça va? J'ai l'impression que tu t'endors.
Elle est en train de décéder, Sophie.
Oui,
J'essaye de voir quand c'est que je vais pouvoir monter à Paris pour voir le musical.
Ah d'accord, ok, ça y est.
Total Eclipse of the Heart.
C'est ça, Patrick m'a fait rêver avec son Bonnie Tyler là tout de suite.
Je sais que ma voix d'ange a souvent cet effet sur les auditeurs. Donc voilà, écoutez, on vous remercie de nous avoir écoutés. Ah non, quand même, moi, c'est quoi déjà ? Note Patrick sur Twitter, et les notes de l'émission et d'autres émissions aussi sont disponibles sur frenchspin.com, non, .fr pour les émissions en français, donc frenchspin.fr, et vous pouvez y retrouver aussi d'autres émissions, dont une sur les jeux vidéo, elle s'appelle Le Rendez-vous Jeu. Et si c'est une actualité qui vous intéresse, cette émission vous plaira peut-être. Donc c'est tout pour nous cette fois-ci. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et là, je me retourne vers Alexandre et je lui dis 1, 2, 3, Total Eclipse of the Heart. Ah, t'as mis du temps à me rejoindre quand même. Bon, à dans 2 semaines. Don't walk, stop it, 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 don't walk,